Place publique. Claude D sera interné à vie. Le tueur de Marie ne retrouvera jamais la liberté, selon un verdict qui est tombé tout à l'heure du côté de Lausanne, la cour d'appel du canton de Vaud. Deux experts pour commenter cette décision, le professeur de criminologie et de droit pénal à l'université de Neuchâtel, André Kuhn, ainsi que Philippe Jaffé, professeur de psychologie à l'université de Genève.
Elle a 24 ans, elle signe déjà son premier roman. Elisa Chua du Sapin, qui vit dans la région, fait une entrée remarquée dans le monde littéraire. Comment vit-elle ce succès naissant et comment voit-elle son avenir en tant qu'auteur? Nous la retrouvons en direct du festival Le Livre sur les quais à Morges.
Elle aussi, c'est une jeune femme, elle a 25 ans, mais c'est une toute autre histoire. Sonia est musulmane et porte le voile. Elle va témoigner tout à l'heure de son quotidien et de la montée qu'elle observe de l'islamophobie en ville de Bienne.
Jusqu'à 19h, place publique. Nadia et Gabriel.
Bonsoir Nadia.
Bonsoir Gabriel, bonsoir à tous. Bienvenue dans Place Publique, votre rendez-vous d'actualité du vendredi soir. L'actualité ce soir, c'est ce verdict qui est tombé tout à l'heure du côté de Lausanne. Claude D, tueur récidiviste qui a tué Marie en mai 2013, vient de voir sa peine confirmée en appel par le tribunal cantonal vaudois. Prison à vie et internement à vie.
Claude D présente un risque élevé pour la sécurité publique qu'il n'est pas possible de diminuer à lointaine échéance. Fin de citation, ce sont les mots de la présidente du tribunal Yasmina Bendani pour la cour d'appel du canton de Vaud. On l'a dit, deux experts sont avec nous pour commenter ce verdict et pour débattre de l'internement à vie, en tout cas analyser cette norme pénale. Tout d'abord, le professeur de criminologie et de droit pénal à l'université de Neuchâtel, André Kuhn, bonsoir.
Bonsoir.
Et Philippe Jaffé, professeur de psychologie à l'université de Genève, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Bonsoir messieurs. Alors, pour rappel, l'internement à vie, introduit après le vote du peuple en 2004, s'applique à toute personne jugée extrêmement dangereuse et déclarée incurable. Alors, en dépit de votre avis sur cette norme pénale, est-ce que pour Claude D, dans le cas de Claude D, c'est justifié? Est-ce que c'est une bonne décision?
André Kuhn, peut-être
Je crois plutôt que ça, M. Jaffé, de répondre.
Oui, alors, M. Jaffé, alors, très bien.
Merci de cette gentille proposition. Écoutez, je pense que ça s'applique dans le cas de cette personne, dans la mesure où il est doublement récidiviste, il a tué deux personnes dans des circonstances assez similaires, il n'y a rien qui démontre à ce stade que son comportement a changé. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il peut évoluer dans le futur, et ça reste, du point de vue pénal, une incertitude à ce stade, donc dans le doute, gardons-le.
Dans le cas de Claude D, eh bien, les deux rapports d'experts ont livré, selon la défense, des conclusions différentes, des conclusions concordantes pour l'accusation. Le tribunal fédéral insiste, il faut que ces deux rapports d'experts puissent dire que l'accusé est durablement non amendable. André Kuhn, est-ce que pour vous, cette décision était la bonne?
Alors, juridiquement parlant, probablement pas. D'ailleurs, le tribunal fédéral, jusqu'ici, les a un peu toutes cassées, ces décisions qui ont condamné à l'internement à vie. Et il en ira probablement de même de celle-ci. Pour la raison suivante, c'est que on est dans un système en Suisse, un système dualiste, c'est-à-dire il existe des peines qui punissent l'acte commis dans le passé en fonction de la culpabilité de l'individu. On regarde dans le rétroviseur et puis on le condamne pour ce qu'il a fait. Il a pris à ce titre-là la peine privative de liberté à vie. C'est la punition la plus élevée que l'on puisse infliger à quelqu'un. Ça, c'est un pan du droit des sanctions. L'autre pan du droit des sanctions, dans ce système dualiste, c'est les mesures. Les mesures, on ne regarde pas dans le passé. On ne se demande pas s'il a tué déjà deux fois, si c'est un grand salopard ou je ne sais pas quoi. Non, on regarde dans l'avenir, puis on se dit, est-ce qu'il est dangereux dans l'avenir? Et évidemment, en l'occurrence, il va être considéré comme dangereux dans l'avenir. Seulement, le problème, c'est que dans ces mesures, il y a une sorte d'escalier à trois marches. On a tout d'abord des gens malades qu'on envoie en mesures thérapeutiques. On a ensuite des gens, entre guillemets, irrécupérables ou dangereux pour la société, pour lesquels on prononce l'internement ordinaire, qui peut aller à vie pour celui qui ne sera jamais guéri. Mais on examine son cas régulièrement, mais de toute façon, ça, il faudra le faire, puisque la Cour européenne des droits de l'homme nous dit qu'une fois par année, on doit examiner le cas de l'individu. Et donc, pour l'internement à vie, il reste plus grand-chose, puisque l'internement ordinaire permet déjà de garder un individu à vie. Le tribunal fédéral a donc dit que cette troisième marche de l'escalier, elle doit être évidemment plus élevée que la deuxième, et donc il faut aujourd'hui pouvoir dire que, à vie, cet individu est non amendable, c'est-à-dire non curable. Alors quand vous me dites que la juge a dit qu'à lointaine échéance il ne sera pas soignable, eh bien lointaine échéance, ça ne suffit pas. Il faudrait que ce soit à vie. Et donc aujourd'hui dire que cet individu est à vie incurable, c'est probablement quelque chose de très difficile. Ça c'est pas moi qui peux me prononcer, c'est M. Jaffé plutôt. Mais c'est un pronostic que l'on peut faire probablement pour des gens très âgés. Quelqu'un qui a 100 ans et qui se fait condamner à vie, l'internement à vie, c'est tout à fait possible, ou quelqu'un qui est en phase terminale d'une maladie grave. Voilà un peu à qui s'applique l'internement à vie. Pour les autres, l'internement ordinaire est suffisant. Et d'ailleurs, l'internement à vie nécessite aussi qu'on revoie une fois par année la situation. Seulement, le code pénal nous dit qu'il ne faut pas revoir la situation de l'individu, il faut revoir la situation de la science. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des progrès scientifiques qui permettent d'envisager de soigner l'individu? Mais la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas la Cour européenne des droits de la science. Et la Cour européenne des droits de l'homme va automatiquement casser ce genre de décision.
Alors pour vous aussi, si on revient un peu à cette incurabilité, pour vous, M. Jaffé, est-ce que vous pensez que quelqu'un est incurable à vie?
Est-ce qu'on peut le déterminer?
Non, c'est extrêmement difficile. Ce qui est certain, c'est que l'état actuel des connaissances scientifiques est que pour certains types de pathologies, on ne connaît pas de thérapie efficace ou suffisamment efficace pour rassurer la population que la dangerosité d'une personne est suffisamment contrôlée. Donc ça, c'est une certitude du point de vue scientifique. L'autre certitude à laquelle André Kuhn a fait allusion, c'est qu'on sait aussi, et c'est un peu contradictoire avec cet internement à vie, c'est on sait forcément que les personnes en devenant plus âgées vont devenir moins dangereuses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a toutes sortes de télescopages ici. La psychopathologie, la dangerosité, la volonté populaire de ne plus prendre de risques, aucun risque, voire même de faire des entorses au droit international et au droit de l'homme pour s'assurer que personne ne prendra une décision qui met à risque la population. On peut débattre sur le droit, le sentiment des scientifiques est qu'on ne peut pas guérir tout le monde. Le sentiment de la volonté populaire, c'est qu'il ne faut pas prendre de risques avec des personnes dangereuses.
Mais justement, alors pourquoi prendre autant de précautions et de nuances avec un homme qui a tué, qui est un récidiviste? Est-ce qu'il y a une nécessité quand même de protéger la société,
Monsieur Kuhn?
Mais bien entendu, mais c'est ce qui a été fait. On a dit qu'il a commis déjà deux assassinats. C'est un personnage, entre guillemets, odieux. C'est ce qu'a déterminé le tribunal de première instance et le tribunal de deuxième instance. Et dans ce cadre, il a prononcé la peine privative de liberté à vie, dont je rappelle qu'on ne sort que quand on est plus dangereux. Alors c'est complètement schizophrénique. On donne une peine dont on ne sort plus, on ne sort que quand on est plus dangereux. Et ensuite on a encore une mesure dont on ne sort que quand on n'est pas dangereux. C'est difficile à comprendre. Donc on a puni l'individu au maximum, c'est-à-dire à vie. Ensuite l'internement qui vient en plus, ça ne change mais rien du tout.
Est-ce que le poids qu'on accorde aux experts, Philippe Jaffé, est-il maintenant trop important? Cet internement à vie dépend de deux rapports d'experts. Est-ce que les psychiatres ne sont pas maintenant trop sous pression? Est-ce que ça peut expliquer aussi que cette norme a été si peu appliquée?
Bien, une grande partie des experts psychiatres et quelques experts psychologues qui participent à ce genre d'expertise et qu'il est vraiment très très difficile de se prononcer tellement à l'avenir. Donc c'est vraiment un petit groupe d'experts, surtout des experts spécialisés en psychiatrie légale, qui peuvent imaginer que des fois, il faut émettre cet avis. Alors, vous trouverez toujours, vous mettez deux psychologues dans une salle, vous aurez toujours des nuances, parfois trop de nuances et des différences qui n'en sont pas.
On va poursuivre ce dialogue avec vous, mais pour l'instant, on va juste prendre des nouvelles des principaux titres de la soirée et on vous retrouve pour le développement. Désolé de vous interrompre, Monsieur Jaffé.
Et oui, c'est l'heure pour nous de prendre la direction du Flash de 18h30. Et on s'informe avec vous, Léandre Béret, bonsoir.
Bonsoir. La justice vaudoise a confirmé aujourd'hui la perpétuité et l'internement à vie pour Claude D. La cour d'appel pénale du tribunal cantonal a suivi le jugement de première instance. Le récidiviste de 40 ans avait tué la jeune Marie en 2013 près de Payerne. Nouveau rebondissement dans l'affaire des employés polonais exploités sur des chantiers. Le tribunal de Neuchâtel ordonne le séquestre des biens de l'employeur. C'est ce qu'a communiqué le syndicat Unia en fin de journée. Le syndicat a observé des mouvements de biens en direction de la France. Unia estime que cela a vraisemblablement pour but de mettre ce matériel à l'abri pour rendre la société insolvable. Fred Henri Schneck est le nouveau chef du service jurassien de l'enseignement. Le gouvernement a communiqué son choix aujourd'hui. Il a également engagé Guy Jubin en qualité de directeur général ad intérim du Centre jurassien d'enseignement et de formation. Les flammes ont causé d'importants dégâts à Moutier. Un incendie s'est déclaré la nuit passée dans une usine de décolletage dans le quartier de la Verrerie. Le sinistre a pu être rapidement maîtrisé par la vingtaine de sapeurs-pompiers du CRISM. Personne n'a été blessé. Une enquête a été ouverte par la police cantonale bernoise. Elle devra notamment déterminer le montant exact des dégâts ainsi que les causes du sinistre. La purge continue en Turquie. Le gouvernement d'Erdogan a relevé de leurs fonctions 10 000 employés supplémentaires. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le journal officiel. Et du côté du ciel, les nuages seront assez présents demain matin, puis dès la mi-journée, retour à un temps bien ensoleillé. Les températures restent chaudes et estivales, et il fera entre 10 et 17 degrés le matin. L'après-midi, les thermomètres grimperont jusqu'à 27 degrés par endroit, et ça se gâtera par contre dès dimanche avec un ciel plus couvert et le retour des averses. Excellente soirée.
Place publique.
Et on reparle du verdict donc qui vient de tomber au sujet de Claude D, qui est donc interné à vie. C'est un verdict confirmé par la cour d'appel du tribunal cantonal du canton de Vaud. Ça s'est passé du côté de Lausanne. On est avec deux spécialistes qui discutent de cette nouvelle et qui discutent aussi de cette norme pénale, l'internement à vie. Philippe Jaffé, vous qui êtes professeur de psychologie à l'Université de Genève, je vous posais la question tout à l'heure. Est-ce que le poids qu'on accorde aux experts est trop important? Est-ce qu'il y a trop de pression sur les épaules? D'où aussi... une application très, très stricte et difficile de cette norme.
Il faut prendre en compte le fait que le travail des experts, et en tous les cas, ceux qui ont été impliqués dans cette affaire, ce sont des experts de qualité qui travaillent fréquemment avec la justice, dont le travail est généralement salué pour sa diligence. Et donc, la justice, d'une certaine manière, a bien raison de pêcher des informations sur le fonctionnement d'une personne auprès de spécialistes qui comprennent ce fonctionnement. Un juge ne peut pas s'improviser psychiatre, et inversement d'ailleurs, un psychiatre ne peut pas prendre des décisions judiciaires. C'est une collaboration qui, des fois, est compliquée, mais qui a lieu d'être quand le fonctionnement de personnes est très particulier, qu'il s'agit de prendre des décisions qui portent sur des questions de psychopathologie ou de dangerosité.
Mais c'est pas schizophrénique, alors que vous nous le disiez tout à l'heure, bah oui, c'est impossible de dire que quelqu'un est à vie incurable.
Alors, c'est une question de sensibilité et de conviction. Il y a des experts qui estiment que la recherche montre qu'à long terme, le fonctionnement d'une personne ne change pas ou quasiment pas, et ils n'ont pas tort en montrant ces études. Il y en a d'autres qui disent, d'un point de vue scientifique, on ne peut jamais faire d'hypothèse qu'on ne peut pas changer quelqu'un. Donc voilà la quadrature du cercle pour vos auditeurs.
Monsieur Kuhn, cette quadrature du cercle, comment vous la jugez? Comment vous l'intégrez dans le raisonnement juridique?
Alors, dans le raisonnement juridique, on a quand même un principe très fondamental en droit pénal, qui est le doute qui profite à l'accusé, et que lorsqu'il y a un doute, eh bien, on doit le faire profiter à cet accusé. Maintenant, là, il n'y a pas de doute sur les faits, il a donc été condamné à la plus haute peine possible. Par contre, il y a un doute sur l'incurabilité à vie, et donc l'internement à vie, on aurait dû s'en passer, et on aurait pu tout à fait prononcer un internement ordinaire. Ce qui aurait d'ailleurs été beaucoup moins risqué, parce que le tribunal fédéral reviendra probablement sur cette décision, parce qu'il aura, lui, derrière lui, encore la Cour européenne des droits de l'homme, qui veut, et puis lui, il n'a pas envie d'être cassé par Strasbourg. Et surtout, si Strasbourg casse ce type de verdict dans 30 ans, c'est-à-dire quand l'individu demandera à être libéré, et puis qu'on lui répondra non, parce qu'il n'y a pas de progrès scientifique, eh bien la Cour européenne des droits de l'homme dira non, mais on ne peut pas ne pas libérer quelqu'un parce qu'il n'y a pas de progrès scientifique, ça n'a rien à voir, nous sommes la Cour européenne des droits de l'homme et pas de la science, et peut-être qu'elle nous obligera de libérer quelqu'un qui pourrait éventuellement encore être dangereux. Et ça nous embêtera beaucoup plus que si on avait prononcé aujourd'hui un internement ordinaire qui est tout à fait compatible avec la CEDH.
Alors, si je peux juste intervenir, parce que les arguments d'André Kuhn sont tout à fait pertinents, je dirais juste encore une chose à propos de la libération future de personnes du type de la personne condamnée aujourd'hui. J'ai beaucoup de peine à imaginer que des psychiatres ou des psychologues s'aventureront en faveur d'une libération, même si cette personne suit toutes les recommandations thérapeutiques qu'on lui offrira durant son long séjour en prison. Et donc, c'est vrai qu'on peut se dire, on pourrait se passer de cette troisième marche à laquelle fait référence André Kuhn. Mais encore une fois, je pense que la justice est aussi l'expression d'une volonté populaire avec laquelle je ne suis pas forcément toujours d'accord dans ce cas. Mais il faut aussi prendre en compte cette notion que la justice et les sciences du comportement ont permis à un certain nombre de récidivistes de recommettre encore, au-delà de la récidive, nouvelle récidive, le cas de Fabrice A. à Genève, qui va être jugé cet automne pour la mort d'Adeline, est encore un de ces cas. C'est absolument intolérable pour la population qu'on puisse même imaginer qu'un jour il puisse sortir.
Très très rapidement, André Kuhn, un mot sur le poids de cette volonté populaire dans l'appréciation d'un jugement. Ça compte aussi ou au contraire, il y a un hermétisme qu'on doit protéger entre le tribunal et ce que pense le peuple?
Non, mais il y a ce que pense le peuple, je vais pas, j'en sais rien, mais j'imagine qu'on se dit il doit rester à vie en détention. C'est en tout cas ce qu'on se dit aujourd'hui. C'est exactement ce qu'a prononcé le tribunal cantonal en disant peine privative de liberté à vie. Et puis derrière, il aurait pu éventuellement prononcer un internement. Prononcer l'internement à vie, ce ne sont que des mots, mais des mots qui n'ont aucun sens. Aucun sens dans le sens où cette troisième marche de cet escalier que je vous ai présenté tout à l'heure, elle nécessite vraiment, juridiquement parlant, hein, le sens profond de cette troisième marche, c'est incurable à vie. Et ça, même M. Jaffé nous le dit, hein, donc c'est très compliqué à être certain qu'une personne ne changera pas dans les 50 prochaines années, parce qu'il a 40 ans, il a probablement encore 30 ou 40 ans à vivre. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il ne changera pas dans les 40 prochaines années. Nous avons tous changé dans les 40 dernières et nous changerons tous dans les 40 prochaines encore.
Mais c'est tout le mal qu'on souhaite. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus commenter donc ce verdict d'internement à vie confirmé par la cour d'appel du tribunal cantonal vaudois. Merci Philippe Jaffé, merci André Kuhn. Merci. Bonne suite de soirée.
Bonne soirée, merci. Merci.
Place publique.
C'est l'événement de la rentrée littéraire en Suisse romande. La 7e édition du festival Le Livre sur les quais a débuté aujourd'hui à Morges. Plus de 300 auteurs y participent jusqu'à dimanche. À côté des grands noms de la littérature française, on trouve aussi les écrivains d'ici, de la région. Parmi eux, une jurassienne d'origine franco-coréenne. Elle s'appelle Elisa Choua du Sapin. Peut-être que vous l'avez croisée, vous la connaissez, ou bien vous avez déjà lu son livre, puisque cette jeune femme de 24 ans vient de publier un premier roman remarqué et intitulé « Hiver à Sokcho » aux éditions Zoé. Un roman qui lui a valu d'ailleurs le prix de la fondation Robert Walser.
Une carrière prometteuse semble s'offrir à elle, l'occasion de lui demander comment elle vit dans la peau d'une auteure déjà remarquée et comment elle envisage le métier d'écrivain, quel rôle elle tient à jouer dans la société, une plume à la main. Elisa Choua du Sapin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous en direct de Morges, où vous venez de vivre une première journée. Alors, conférences, dédicaces, rencontres d'auteurs, quelles sont vos premières impressions?
Alors, je vous parle depuis effectivement Morges, un peu fatiguée après tout ce tourbillon de monde. C'est magnifique de voir tous ces lecteurs affluer, toutes ces rencontres avec d'autres auteurs. Des choses qui permettent effectivement de réaliser qu'on est bel et bien dans ce monde-là tout d'un coup, ce qui est assez étrange aussi. Une très grande voix, quoi, tout simplement.
Alors, pour une auteure comme vous, est-ce que rencontrer ses fans un peu, ses lecteurs, c'est une forme d'achèvement?
Bon, c'est quelque chose que d'une manière ou d'une autre, j'ai déjà vécu pendant mes études à l'Institut littéraire. Donc, le fait de faire des retours critiques sur ce qu'on a fait, c'est des choses que je connais. La différence, c'est que là, ça vient de la part de personnes que je ne connais absolument pas et qui peuvent venir des fois de loin. Et ça donne un sentiment peut-être de dépossession d'une certaine manière du texte qu'on a fait. Et en même temps, c'est ça le plus beau, parce qu'on se dit qu'à partir du moment où quelqu'un qu'on ne connaît pas a réussi à s'approprier l'histoire qu'on a écrite jusqu'à parler de choses que soi-même on ne voyait pas, c'est vraiment magnifique pour soi en tout cas.
Alors, des critiques et des retours de gens que vous ne connaissez pas. Quels sont les retours de votre roman, les choses que vous avez entendues aujourd'hui ?
Bon, je crois que, de manière générale, il y a une bonne réception critique. Hein. Il y a eu, les médias ont aussi beaucoup relayé l'information de cette sortie du livre, et ça aide à ce que les gens aillent le chercher et le lire. Et...
Qu'est-ce qui les a marqués dans ce récit quand ils vous croisent ? Ils vous félicitent pour quel aspect ? Est-ce que c'est votre écriture, votre style ? C'est l'histoire ? C'est des questions ?
Voilà, vous me mettez un peu à l'aise, parce que j'ai l'impression du coup de voir Moto enfoncée.
Non, pas du tout.
Mais je crois que ce qui ressort de manière générale, c'est le fait que je sois jeune et qu'un premier roman soit publié avec un prix Balzer. Forcément, ça fait que ça se remarque. Hein. Mais je crois aussi que le fait que le texte parle de multiculturalité, de recherche d'ancrage, ça parle à beaucoup de gens que même si qu'on vienne, je veux dire, de culture plurielle ou pas, surtout aujourd'hui, dans un univers où tout va extrêmement vite, où on peut aller à l'autre bout du monde en quelques heures, ça pose beaucoup de questions identitaires, je crois, de manière générale.
On va en toucher un mot de votre roman, promis. Elisa Choix du Sapin, vous voilà donc à 24 ans, une auteure déjà remarquée. Vous avez parlé du prix Rebel Valzer, vous l'avez mentionné. Est-ce qu'à ce moment-là, on se dit, ça y est, je suis écrivain, je suis auteur ?
Personnellement, non, j'arrive pas à me dire ça. Je sais pas si j'arriverai à me dire ça un jour. Même si je sais que j'ai des collègues qui pensent tout le contraire, en tout cas par rapport à l'acte d'écrire. Je crois que personnellement, j'arriverai en tout cas pas à me considérer comme un écrivain avant d'avoir publié un deuxième roman et que j'ai la certitude que c'est vraiment quelque chose que je pourrais tenir toute ma vie. Dans le sens où, un premier livre est sorti, il est remarqué, c'est formidable. Mais je pense que le métier d'écrivain est quelque chose de tellement astreignant que je pense que seul le temps pourra démontrer ce qu'il en est vraiment pour moi, quoi, très sincèrement.
Vous ressortez...
Même si j'espère. Pardon ?
Vous ressortez deux choses intéressantes. Vous parlez d'acte d'écrire et puis de métier d'écrivain. Pour vous, c'est pas... On dirait que c'est entre le plaisir et en même temps le devoir intérieur. Donc pour vous, c'est vraiment une manière d'extérioriser un petit peu ce que vous avez à l'intérieur et pas du tout une manière de faire plaisir aux autres, finalement.
Non, alors ça, absolument pas, c'est clair. D'ailleurs, j'irais même jusqu'à dire que pour moi, l'écriture n'est pas un plaisir, en fait. C'est vraiment une sorte de je sais pas, une urgence intérieure, mais qui fait que pendant des années, je me cloître à l'intérieur sans voir personne, sans savoir d'ailleurs aussi au final le texte sera publié ou pas. Donc je pense que non, si on n'a pas de plaisir, il y a un rapport assez étrange. En même temps, c'est un besoin après qui m'accompagnera toute ma vie. Donc en ce sens-là, je suis absolument consciente que l'écriture est fondamentale dans ma vie et je suis d'autant plus reconnaissante d'avoir pu être publiée, d'avoir en plus reçu un prix qui me lance vraiment de plein pied dans le milieu, disons, dans la chaîne professionnelle de l'écriture. Mais après, c'est clair que mon rapport personnel à l'acte d'écrire, il change pas, quoi. Ça reste vraiment la même difficulté, les mêmes doutes par rapport à être capable de produire quelque chose ou pas au final, quoi.
On a tous en tête le succès immense de Joël Dicker, qui a persisté et même signé, même s'il n'est pas présent cette année à la rentrée littéraire. Est-ce que vous êtes maintenant convaincu, comme nous, qu'on peut signer des best-sellers et vivre de la littérature que lorsqu'on vit en Suisse ? Vous avez grandi, vous avez vécu ou vous vivez toujours à Porrentruy. Est-ce que pour vous, Joël Dicker, c'est un modèle encourageant, même si je vous associe ou on ne vous associe pas forcément à son style et que vous êtes deux auteurs complètement différents ?
Mais je crois qu'on ne peut vraiment pas comparer, en fait, parce que le cas de Joël Dicker a pris des proportions tellement énormes que ça dépasse même le cas de la compréhension des éditeurs, ou en tout cas du mien. Oui, vraiment, je crois qu'on ne peut pas comparer les deux. Après, pour pouvoir en vivre,
Justement, on voit la comparaison avec vous et Joël Dicker. Il y a toute une médiatisation autour de lui. Il s'est vendu, il a vendu son livre aussi. Est-ce que vous seriez prête, vous, à faire ça ?
crois que la question elle se pose tant que ça reste dans l'accompagnement vraiment du texte au niveau de la littérature et qu'il n'y a pas une forme d'instrumentalisation de l'auteur. Et c'est clair que ça peut être un... Donc, je dis pas que c'est arrivé à Joël Dicker. Enfin, en tout cas, je le connais pas personnellement. J'en ai jamais parlé avec lui. Mais en ce qui me concerne, j'ai l'impression que ça reste dans des proportions tout à fait raisonnables parce qu'on reste vraiment très proche du texte et que si je suis présente, c'est pour en parler. D'autant plus que pour moi, je vois pas ça de manière négative, dans ce où finalement l'écriture, la littérature imprimée, elle existe depuis quelques centaines d'années, mais la littérature depuis des millénaires. Et au départ, c'était juste de l'oralité, donc la présence de l'auteur ou de la personne qui la récitait était fondamentale. Donc
Et justement, quel est votre rapport, vous, à la scène? On peut dire, bon, vous êtes aussi un peu comédienne, mais cette dimension publique de votre activité, le fait qu'il faut être un peu en pleine lumière, il faut se montrer. On vous voit d'ailleurs sur le site de vos éditions, Zoé, présenter votre ouvrage vous-même face caméra. Est-ce que cette mise en avant de votre personne, de votre image, c'est quelque chose que vous appréciez?
Bon, apprécier la mise en avant de l'image ou pas, c'est... Pour moi, je crois que c'est pas la question. En fait, je suis absolument heureuse que le texte puisse rencontrer des lecteurs.
C'est pas plus important que ça pour vous?
Non, c'est pas. En tout cas, c'est absolument pas fondamental. C'est évidemment pas ce que je recherche. Je pense que s'il faut faire ça aujourd'hui pour pouvoir promouvoir son texte, c'est que je jouerai le jeu. Dans le sens où, finalement, si on veut pas être, si on veut pas se dévoiler d'une certaine manière, on n'envoie pas son texte à un éditeur, hein, ça c'est clair, que ce soit une fiction ou une autobiographie totale, ça me semble clair.
Alors moi, c'est justement une question que je me posais. J'ai lu votre livre, votre roman, hein, Un hiver à Sokcho. Alors ça évoque la rencontre d'une jeune Coréenne avec un dessinateur venu de Normandie. Alors moi, je me suis posé la question tout du long, est-ce que c'est inspiré de faits réels? Est-ce que c'est inspiré de votre vie? Est-ce que c'est romancé? Est-ce que ça prend le lecteur réellement jusqu'à la fin? Qui est cet homme? Est-ce qu'il y a des liens familiaux et que vous n'avez pas découvert? Est-ce qu'il y a une histoire d'amour qui débute? Est-ce que c'est une histoire qui vous dévoile finalement?
Je crois que ça me dévoile beaucoup dans mes obsessions par rapport à cette quête de rapprochement entre l'Occident et l'Extrême-Orient, en fait, qui n'est pas forcément évidente.
Parce que votre mère est coréenne d'origine et votre père français.
Oui, c'est ça. Mais après, j'ai vraiment utilisé ce bagage culturel, multiculturel qui m'habite pour pouvoir le projeter dans un univers qui n'est pas du tout de moi et pouvoir, d'une certaine manière, réaliser les fantasmes de choses que je n'ai jamais pu vivre, c'est-à-dire, par exemple, être en Corée du Sud est considérée comme une vraie Coréenne, ce que je n'ai jamais pu vivre. Mais et ça, c'est le pouvoir de la littérature, que de pouvoir inventer justement des mondes dans lesquels on peut soi-même se projeter, mais en tant que Deus ex machina, finalement. Donc, en fait, les personnages que j'ai écrits, sont vraiment des personnages de fiction. La narratrice, ce n'est pas moi, même si elle me ressemble par mon âge et par sa double culture. Elle a l'extrême inverse, elle n'est jamais allée en Europe et tout le reste est une fiction.
Vous brouillez les pistes, on l'a bien compris, mais il y a quelque chose à trouver en tout cas en lisant ce livre. Et aussi, pour ceux qui aiment la gastronomie sud-coréenne, on a quelques cours qui sont bons à prendre. Merci beaucoup Elisa Choua du Sapin.
Merci beaucoup.
On vous souhaite bien sûr une bonne suite de festival du livre sur les quais, de signer beaucoup d'autographes, de dédicaces et puis d'avoir aussi du succès tout au long de votre carrière. À bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir.
Place publique.
L'islam fait peur à la population. En cause, les actes terroristes perpétrés en Europe et dans le monde au nom de cette religion par les adeptes de l'État islamique. À côté des appels à la solidarité, les « Je suis Charlie »,« Je suis Nice », »,« Je suis Paris », la communauté musulmane inspire les peurs et suscite des réactions violentes. L'islamophobie s'affiche sans complexe dans la rue et sur les réseaux sociaux. Dernièrement, le débat sur la burqa et le burkini ont enflammé les esprits. Comment le vivent les principaux intéressés. Aujourd'hui, avec nous, Sonia, une jeune biennoise de 25 ans, musulmane, qui nous explique comment tout cela est vécu au sein de sa communauté. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Sonia, on va vous entendre, merci d'être avec nous.
On vous entend.
Alors vous êtes née d'un père tunisien et d'une mère suisse, vous êtes pratiquante, donc vous portez le voile, je peux en attester.
Tout à fait.
Est-ce que le regard des gens a changé depuis les récents événements? Le regard des gens sur vous, évidemment.
Tout à fait. Alors, si je compare ça dans le temps, comparé à ce que j'ai vécu étant plus jeune, c'est vrai que j'ai remarqué que certains regards s'étaient beaucoup plus accentués. Comme je l'ai déjà eu expliqué, c'est des attaques en fait qui sont devenues de plus en plus directes. Avant, c'était des regards un peu plus interrogatifs, et maintenant, c'est vraiment des personnes qui viennent dire des choses.
On en vient même aux mots. C'est plus seulement des regards. C'est déjà des regards plus hostiles, et c'est aussi des mots qu'on vous adresse, par exemple.
Exactement. C'est déjà arrivé. Bon, c'est pas dans mon quotidien. Hein, c'est quelque chose qui est quand même et qui reste très rare. Mais ça arrive.
Et donc vous vivez à Bienne, c'est une ville multiculturelle, avec un fort taux d'étrangers et de musulmans. À Bienne, ça arrive aussi.
Alors c'est déjà arrivé, oui.
Et ça prend quelle forme en fait? Ça veut dire, vous dites c'est des regards, c'est des mots, mais c'est des gens qui osent venir vers vous et vous apostropher. Comment vous réagissez quand ça arrive?
Bon alors, ça m'est déjà arrivé justement qu'on vienne et qu'on me dise certaines choses, qu'on me traite de certains noms assez librement. Bon, moi, j'ai une réaction qui est de rester tout simplement très calme et d'ignorer complètement ces attaques, puisque je les trouve tout à fait infondées.
Et puis, est-ce que vous craignez pour votre sécurité?
Non, j'en viens pas à ce point-là, quand même.
Alors, la montée de l'islamophobie, on peut l'expliquer par la montée du terrorisme qui se réclame de l'islam. Est-ce que vous comprenez quand même que certains, alors toujours plus nombreux malheureusement, mais fassent le rapprochement avec votre religion? Cette peur, en fait.
Alors, en tant que musulmane pratiquante qui connaît quand même les bases de la religion, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse nous associer à ces personnes, puisque je connais justement les fondements et les valeurs de la religion musulmane qui est tout à fait contre ce genre de barbarie. Mais je peux comprendre que si on ne connaît pas la religion et qu'on ne connaît pas ses valeurs, on puisse facilement, avec tout ce qui se passe actuellement, les relater.
Et dans votre entourage, quand vous croisez des amis qui vous posent, on imagine, des questions, parce que c'est pas nouveau que vous portiez le voile, mais peut-être que les questions viennent. Comment vous tenez à les rassurer? Comme vous venez de nous le dire, ma religion, celle que je pratique, c'est pas ça.
Exactement, donc j'essaye vraiment d'expliquer ma religion telle qu'elle est, telle que les gens devraient la connaître, pour essayer d'attiser cette peur et d'attiser cette crainte. Exactement.
Justement, il y a aussi des autres avis, des débats, notamment sur le burkini en France, la burqa aussi. Est-ce que c'est comme certains le disent, une façon détournée de s'en prendre à votre religion, ou est-ce qu'il s'agit simplement d'une demande légitime d'une société laïque?
Bon, ça c'est quelque chose qui touche donc principalement la France. Hein. En Suisse, on n'en est pas vraiment là.
Si ce n'est l'initiative contre le port de la burqa, dont on parle beaucoup aussi ces temps. Mais c'est vrai que le burkini, c'est en France.
Tout à fait, tout à fait. Et donc, je ne sais pas vraiment comment définir finalement cette attaque, si on peut en parler comme ça. Mais c'est vrai qu'on a l'impression de plus en plus qu'on veut vraiment nous éloigner du foulard, nous éloigner...
Des signes, en fait, de votre religion.
Exactement. Alors qu'au final, c'est bien plus qu'un signe. C'est quelque chose qui va au-delà vraiment du fait de porter un signe religieux.
Pour vous, ce débat sur le burkini est infondé ou vous comprenez la racine du malaise?
Alors j'ai du mal à comprendre, étant donné qu'on est dans une société qui est quand même libre, où on encourage vraiment les personnes à s'intégrer, à vivre dans une société dans laquelle il y a plusieurs cultures. Donc de ce côté-là, je trouve ça infondé, parce que justement ces personnes, elles essayent, malgré leur religion, de quand même s'intégrer, de faire des choses comme tout le monde, de se baigner, etc.
Mais alors, justement, vous qui portez le voile, qu'est-ce que ça représente pour vous dans la religion?
Alors aujourd'hui, je définirais le voile comme une sorte d'aboutissement spirituel, finalement. C'est un travail qu'on fait sur nous-mêmes. Et à un certain moment, lorsqu'on se recherche dans la religion, lorsqu'on essaye de se définir, ça devient comme une évidence. Et c'est quelque chose dont on a besoin et qui nous libère, finalement.
Et est-ce que vous comprenez ceux qui craignent que dans les communautés musulmanes, parce qu'il y a bien sûr plusieurs sensibilités, il y a plusieurs manières de pratiquer, qu'il y ait des tendances un peu plus fondamentalistes dans les communautés musulmanes? Est-ce que vous pensez que dans votre communauté aussi, le débat existe?
Bien sûr, bien sûr. Alors on est vraiment les premiers touchés par cette peur justement de l'extrémisme, par cette peur de tout ce qui se passe dans le monde. Et on est aussi les premiers touchés au niveau...
Vous êtes les victimes aussi du terrorisme.
Exactement.
Et justement, cette montée de l'islamophobie, pour vous, c'est aussi quelque chose dont vous souffrez. Donc vous êtes les victimes de tout ce qui arrive en ce moment.
Tout à fait. Ce qui est très difficile, c'est qu'on est victime de quelque chose dont on est contre, en fait. On est complètement contre le terrorisme, on est complètement contre tout ce qui se passe, mais on nous le reproche.
Merci beaucoup en tous les cas, Sonia, d'avoir été avec nous et surtout d'avoir eu le courage de témoigner et de nous dire donc que l'islamophobie ou la peur qu'inspire votre pratique religieuse est en augmentation, et on espère que vos propos sont de nature à rassurer tous ceux qui seraient un peu effrayés.
Merci beaucoup.
C'est tout pour Place Publique pour ce soir. Vous souhaitez retrouver l'intégralité de cette émission? Eh bien, c'est possible dès tout à l'heure sur nos sites rjb-rfj.ch. Et on se retrouve la semaine prochaine, Gabriel, pour un nouveau numéro.
Et on se réjouit d'ores et déjà. Bonne soirée à tous et bon week-end.
Place Publique.